Bonsoir à toutes, à tous. Nous sommes dans la deuxième partie du cours qui pose la question de la recevabilité et plus radicalement de la crédibilité de la foi chrétienne. Recevabilité, crédibilité qui font partie de l'identité même de la foi chrétienne, parce que ce sont des concepts impliqués dans la révélation, dans l'auto-révélation même de Dieu. Et dans le premier chapitre, je me pose une question d'abord assez classique, je dirais de toute apologétique, la fonction apologétique de la théologie fondamentale, c'est-à-dire la question du rapport entre foi et raison. Que pouvons-nous attendre? Que peut-on attendre de la raison dans le domaine du sens de l'existence, d'abord, et bien sûr, d'une manière plus particulière, dans le domaine de la foi? Ce qui revient à s'interroger sur le statut à la fois philosophique et théologique de la raison humaine. Alors, je reviens plus à la partie historique qui s'est grosso modo terminée avec le Concile Vatican I. Vous vous rappelez, on a lu notamment le chapitre 4 de Dei Filius, avec les grandes intuitions qui se trouvent ici. Foi et raison ne se situent pas sur un même plan. Il y a une distinction à la fois formelle et concernant le contenu qui est absolument décisif, cette distinction décisive. Et le Concile donne même quelques consignes quand il y a des confusions. Voilà, les deux côtés doivent apprendre quelque chose, évidemment. Alors, je reviens très brièvement sur le deuxième point, donc qui a abordé un exemple très précis, l'exemple des preuves de Dieu, avec les trois traditions différentes, saint Thomas, saint Anselme, repris par Descartes ensuite, la preuve ontologique, et Kant, donc la preuve morale ou éthique. Et j'ai introduit ici une distinction importante, même si ces preuves ne sont plus des preuves, c'est-à-dire elles nous convainquent plus, donc elles ont perdu dans la culture contemporaine leur statut convaincant, leur valeur convaincante, leur valeur de preuve. Donc là, c'est la forme même. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur valeur. Au contraire, c'est peut-être leur vraie valeur qui est en train de sortir maintenant. C'est-à-dire autour de la signification, donc je reprécise un tout petit peu les choses. Donc à un premier niveau, ce qu'on peut retenir des preuves, c'est saint Thomas, au fond, explicite le mot Dieu, voilà, celui que tous appellent Dieu. Vous rappelez cette magnifique formule de saint Thomas. Et ensuite, chez saint Anselme, c'est pas le mot Dieu qui est en jeu, c'est le nom même de Dieu. Je suis celui qui est, avec la preuve ontologique, celui dont plus grand ne peut être pensé. Et on pourrait dire chez Kant, c'est encore le nom de Dieu d'une certaine manière, mais c'est pas la traduction je suis celui qui est. Donc il n'y a pas d'ontologie ici, chez Kant, mais c'est celui que je serai. Je suis celui que je serai. Il y a cette idée d'espérance qui est tout à fait décisive. Le postulat est le postulat de l'espérance. J'espère que si j'existe moralement jusqu'au bout, je respecte autrui, quoi qu'il arrive, malgré toute l'absurdité, j'espère qu'il y a une concordance en Dieu entre d'un côté la moralité et de l'autre côté Dieu comme auteur de l'univers. Voilà donc le mot Dieu, le nom de Dieu sous les deux formes. Alors dans les deux cas, dans les trois cas, ce qui est intéressant à repérer, si la force démonstrative disparaît, c'est au fond le rapport à l'expérience. La tentative de traduire les termes, le mot Dieu ou le nom de Dieu, en termes expérimentaux. Donc chez saint Thomas, c'est le mouvement. Par exemple, vous avez peut-être relu les quinquevillets, les cinq voies, donc l'expérience du mouvement. Chez Saint Anselme, c'est l'expérience de la prière qui est décisive. Mais une prière pensante, pourrait-on dire, une méditation qui conduit vers ce dont plus grand ne peut être pensée. Donc l'identité en Dieu entre son essence et son existence, le nom de Dieu indique cette identité absolue, je suis celui qui existe, je suis l'existant par excellence, alors que nous, quand nous pensons, nous ne pouvons pas ne pas distinguer entre l'essence de quelque chose, la définition, de quelque chose et son existence, avec la formule de Kant, un thaler dans la poche ou un euro dans la poche, c'est différent que la définition d'un euro. Quand je sais ce que c'est un euro, ça ne veut pas dire encore que je le possède. Donc il y a une distinction nécessaire entre essence et existence. Donc, penser Dieu, ce dont plus grand ne peut être pensé, c'est penser en même temps la limite de toute pensée humaine. Et finalement, je dirais l'expérience éthique, la magnifique preuve, je dirais, si je puis dire, ou le postulat éthique d'un Dieu moral, d'un Dieu de l'espérance, c'est postuler librement l'existence de Dieu, c'est-à-dire concevoir un auteur moral de l'univers. Et ça suppose la prise de conscience du sujet, de sa possible liberté. Je peux être libre, ça veut dire je peux choisir le bien, malgré les absurdités à la Job dans lesquelles je suis parfois conduit. Je peux faire cela. Et donc rester jusqu'au bout dans une existence éthique, c'est postuler un sens. C'est postuler finalement Dieu, c'est-à-dire Dieu au cœur de la liberté humaine, postulé au cru et non démontré. Donc là encore, si vous voulez, je dirais, il s'agit d'une traduction expérimentale du nom de Dieu. On pourrait dire Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est le déploiement de la raison pratique au sein d'une existence humaine. C'est la promesse inscrite dans tout acte moral, la promesse de sens, c'est ça Dieu pour Kant, inscrit dans toute existence morale. Et voilà, ça c'est donc le deuxième élément, expliciter les mots ou le nom, expliciter le mot Dieu ou le nom de Dieu à partir d'une expérience, et troisièmement, c'est-à-dire d'en expliciter par là l'universalité, parce que dans le mot Dieu, il y a une universalité. J'aime parfois dire seul Dieu est catholique, parce que seul Dieu n'est pas le Dieu d'un tel, d'une telle, d'une telle tribu, d'un tel groupe, mais fait partie même de la définition, entre guillemets, du mot Dieu, indéfinissable, son universalité. C'est une manière de dire l'universel, dire Dieu. Et donc le dire, soit je dirais chez saint Thomas encore dans une métaphysique cosmique, c'est-à-dire par rapport au monde, le mouvement par exemple, les causalités, de le dire par rapport à la pensée chez saint Anselme, Et chez Kant, c'est la présupposition que au fond de tout être humain sommeille un être éthique, une liberté possible de choisir le bien. Voilà, donc comme reprise, je pense que ça doit un peu suffire. Ensuite, il faut évidemment méditer soi-même les textes. Alors, dernier point, pour terminer donc ce chapitre sur la raison, donc à la page 28 de votre polycopié, de l'obligation de croire à la liberté de l'acte de foi dans la conscience moderne et post-moderne. Donc, voyez ce qui est impliqué déjà chez Kant et qui fait qu'il ne parle plus de preuve de Dieu, parce que quand vous parlez avec le Vatican I, le Concile Vatican I, de démonstration ou de preuve, d'une manière ou d'une autre, vous êtes obligé de croire en Dieu. Vous êtes obligé. Alors, soit vous faites partie des simples, ou votre raison n'est pas droite. Elle est fourbe quelque part, courbée. Et donc, je dirais, la notion de preuve, pour nous, aujourd'hui, implique quelque part une nécessité. Et donc, avec Vatican II, Dignitatis Humanae, en particulier, on accède réellement à cette idée que la liberté religieuse, c'est-à-dire que aucune contrainte, qu'elle soit sociétale, étatique, ou qu'elle soit ecclésiale, rien ne peut obliger la conscience humaine de croire en Dieu. Rien. Donc c'est la liberté, et je reviens à cette idée de la recevabilité. Dieu n'oblige pas, il se rend recevable et crédible. Donc c'est de ça que nous allons parler maintenant. Et évidemment, dans une société, notamment postmoderne, où nous sommes face à une pluralité de convictions. D'abord, une pluralité de religions, mais plus radicalement, une pluralité de convictions. Nous ne pouvons pas supposer, ce serait un mauvais présupposé, le contraire, je dirais, de ce qu'il faut présupposer, que l'autre qui est en face de moi, tel musulman, par exemple, ou tel bouddhiste, n'est pas bouddhiste ou musulman par conviction. Je ne peux pas présupposer cela. C'est peut-être vrai, comme il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens par tradition, pas par conviction. Mais le propre de notre situation, c'est que nous prenons conscience de la pluralité des consciences, la pluralité des convictions. La pluralité de convictions, et ça pose évidemment, je dirais, la question de la vérité. Le problème de la vérité, qu'est-ce que c'est le vrai ? Quelque part, il faut relier vérité et communication à cette profondeur. Nous allons le voir. Donc, vous rappelez ici, j'en viens ici à la distinction entre modernité et postmodernité, donc à la page 10, où j'avais déjà posé le problème dès le premier cours. Il ne suffit pas, si vous voulez, quand on est en apologétique, on s'interroge sur la crédibilité du christianisme, il ne suffit pas simplement de dire « ça me fait du bien », pour le dire de manière un peu psychologisante, ou « le christianisme a humanisé l'humanité ». On ne peut pas seulement argumenter à partir des effets, c'est la question de la vérité qui est posée. Alors évidemment, notre société, nos sociétés modernes, je le montrerai maintenant tout de suite, ont beaucoup de mal avec cette question de la vérité. Parce que celui qui dit la vérité, dit ceci ou cela est vrai, il est très rapidement, si vous voulez, soupçonné de totalitarisme, voilà, ou de violence. Alors, un petit mot sur la modernité. Donc, la modernité, je dirais, a produit un déplacement très fondamental en matière de sens de l'existence et de foi. Donc là, si vous voulez, Kant reste la figure par excellence, c'est pas le seul. Ce déplacement. En quoi il y a un déplacement? Parce qu'il faut maintenant distinguer, je dirais pour la première fois, on peut aller jusqu'à Camus. Il y a la question se redouble. La question n'est pas uniquement quel sens donner à ma vie, mais la question est plus radicale, y a-t-il un sens? Donc l'expérience de l'absurde. L'expérience de l'absurde. Et vous avez vu, n'est-ce pas, dans les textes de chez Kant, ça arrive, n'est-ce pas, avec une brutalité forte, et quelqu'un comme Camus poussera ça évidemment jusqu'au bout, et d'autres. Le tragique, l'absurde existe. Alors, comment traiter cela? Donc c'est mon petit point A. D'abord, vous voyez, on peut revenir à l'approche phénoménologique du croire, donc les pages 21 et 22 de votre polycopier. Je fais maintenant souvent des références à quelque chose que nous avons déjà vu, mais que je regarde maintenant sous un aspect un peu spécifique. Au point de départ, il y a le fait d'exister. J'existe. Et vous voyez, ça s'impose à moi comme une sorte de nécessité. Nécessité veut dire ici, je n'ai pas choisi d'exister. Personne n'a choisi d'exister. Quand je prends conscience que j'existe, je prends conscience que justement, que le « j'existe » précède à ma prise de conscience. Ça, c'est un fait. Kant parle du fait de raison ici aussi. Un fait. Ça n'était pas choisi, mais le « j'existe » s'ouvre alors à mon choix. À mon choix. Je dois re-choisir d'exister. Je peux évidemment vivre seulement à partir de l'instinct de survie, mais ça peut porter pendant un certain temps, ça ne porte pas toujours, notamment quand l'absurde se présente. Donc la contingence est en même temps un appel à choisir l'existence. Vous voyez, c'est ce que j'ai appelé dans la première partie, les pages 21-22, la vulnérabilité initiale de l'être humain, l'ouverture initiale. Et j'avais dit à ce moment-là, vous voyez, dès que le petit homme s'ouvre par les sens au monde, la question d'orientation se pose. La question du sens se pose. Mais à partir de l'époque moderne, la question n'est pas seulement m'orienter dans quel sens, ce qui suppose que je peux m'orienter, effectivement, mais la question n'est pas uniquement dans quel sens aller ou quel sens adopter, mais elle est plus radicalement, y a-t-il un sens? Y a-t-il du sens? Et vous voyez, c'est ça l'option fondamentale. Et réintervient ici ce que Kant appelle le postulat, parce que c'est l'acte de foi fondamental. Je postule librement qu'il y a un sens, dans mes actes sensés, dans les actes sensés de ma vie. En vivant mon existence d'une manière sensée, en faisant quotidiennement des options, voilà, en me levant d'une certaine manière, en me couchant d'une certaine manière, en mangeant d'une certaine manière, en prenant tel ou tel travail, en choisissant tel partenaire ou non, etc. Vous voyez, je pose sans cesse des actes sensés, mais à l'arrière-plan des actes sensés que je pose, les styles de vie que j'adopte, vous rappelez, j'utilisais ce terme, il y a un postulat fondamental, il y a du sens. Évidemment, par moments, maladie, le mal, la mort prématurée, la mort des innocents, vous voyez toute la question de la théodicée, ce « il y a du sens » est radicalement menacé. Donc on peut dire que l'existence humaine, j'ai dit, là on prend des distances par rapport à Kant, mais on le relit aujourd'hui, c'est au fond ce postulat de sens. Mais ce n'est pas garanti, c'est ça la foi élémentaire. C'est ça la foi élémentaire. Postuler du sens. Et du coup, si vous voulez, il y a quelque chose que le Concile Vatican II a intégré ici, dans le décret sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, on disait tout au long du XIXe siècle, et encore jusqu'à Vatican II, l'Église propose la vérité, c'est une vérité raisonnable, l'être humain, c'est un sens, doit pouvoir y accéder et adopter ce sens. Alors, l'obligation se déplace à Vatican II. Et c'est ça qui est remarquable. Sur quoi porte-elle désormais? Elle porte sur la recherche responsable du vrai. La recherche responsable du sens vrai. Donc, c'est dans, si vous voulez, je dirais, dans Dignitatis Humanae, le numéro 3, c'est pourquoi chacun a le devoir et par conséquent le droit. Donc ça veut dire la société ne peut pas intervenir à ce niveau extrêmement profond de l'être humain, de chercher la vérité en matière religieuse afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai en employant les moyens appropriés. Et ensuite intervient la communication. Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue, par lesquels les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée. Donc ça veut dire ils ont cherché, ils ont trouvé, ou pense avoir trouvé. Vous voyez, quelle relativisation ici. Afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité. La vérité, une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement. Donc, vous voyez, l'être humain, il y a quelque chose qui se déplace ici très radicalement par rapport à la posture classique dans la chrétienté, face à la pluralité des convictions, la question la plus radicale qui se pose d'abord, c'est « y a-t-il un sens ?» Parce qu'il y a de l'absurde. Donc, l'existence consiste à postuler qu'il y a un sens et tel sens. Et cette postulation est une recherche, et une recherche qui est à la fois radicalement singulière et collective. À la fois individuelle et collective. Alors, quelles sont les mutations intervenues depuis Vatican II? Donc là, je vous propose maintenant d'abord une série d'explicitations, et ensuite une conclusion qui rassemble un peu tout sous forme de thèse. Donc je reviens ici, si vous voulez, donc à la partie introductive, donc modernité, postmodernité, j'indique les pages, et donc le pluralisme radical qui est notre situation spirituelle, donc la pluralité des convictions. Donc avec l'idée de mondialisation technique, économique, médiatique, et qui se donne, il faut bien le dire, l'apparence de vérité. Le système bancaire, financier, l'économie, voilà. Un système économique comme récolte, comme on peut, voilà, et tout le politique autour de ça. Et évidemment, je dirais, le médiatique est intimement lié à cela. Et ça se donne pour vérité, c'est-à-dire comme quelque chose d'évident, qui est contesté par les marges, mais qui n'est pas contesté globalement. Alors, c'est ici qu'il faut introduire la question de la vérité. Est-ce vrai? Parce que si vous n'avez pas de critères de vérité ici, vous ne pouvez pas dénoncer ce système. C'est là où il y a l'importance. L'absence de la question de la vérité nous conduit finalement vers une absence de dénonciation possible. Comment critiquer? Vous voyez, dans tous les mouvements alternatifs, on peut penser ce qu'on veut, mais il y a tous les gens qui ne se contentent pas de cette sacrée trinité technique, économique et médiatique, et qui ne veulent pas réduire l'être humain à ces trois composantes. Voilà. Ils posent quelque part la question de la vérité, au moins implicitement, parce qu'ils dénoncent quelque chose. Alors, on est dans un pluralisme de ces dénonciations et dans un pluralisme des cultures et des religions. Donc la thèse, la société actuelle est tentée de renoncer à toute vérité absolue et finalement de se contenter de régler les conflits de voisinage. Et au fond, le gouvernement mondial qui est en train de se dessiner consiste en cela. C'est-à-dire, on joue les pompiers, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, où sont représentés les multiples intérêts des êtres humains, des nations, marqués par l'économique, par le technique, par le médiatique, tentent de réguler les conflits comme ils peuvent, c'est-à-dire on règle les conflits comme les conflits de voisinage, finalement. Et vérité égale intercompréhension. Intercompréhension, c'est-à-dire on tente de se comprendre pour pacifier le monde, comme on peut. Alors du coup apparaît ici une aporie. Aporos, vous voyez, c'est-à-dire, ça vient du grec, ça veut dire, on pourrait parler de sans issue. On entre dans une voie et c'est sans issue. On ne voit pas très bien comment concilier, tenir ensemble l'indépassable pluralité des convictions et l'unité de la vérité, l'exigence de vérité. Comment tenir ensemble cela? Et encore une fois, du coup, la tentation est de dire, bon, à chacun sa vérité. Aux musulmans, leur vérité. Aux chrétiens, leur vérité. Aux bouddhistes, leur vérité. Aux agnostiques, leur vérité. Ce qui suffit, je veux dire, qu'on se comprend un tout petit peu, voilà, et qu'on arrive, vaille que vaille, à vivre ensemble. Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Vous voyez, c'est ça, au fond, le problème. Et l'aporie, donc la difficulté, comment tenir ensemble ce qui est indépassable, la pluralité des convictions et l'exigence de vérité. Alors du coup, ma proposition est celle-ci, c'est-à-dire pour comprendre cette situation philosophiquement et aussi bien sûr théologiquement. C'est-à-dire, la vérité est un postulat. La vérité est de l'ordre du postulat. Comme chez Kant, Dieu est un postulat. Elle est un postulat. Et donc j'essaie un peu de vous montrer ça à travers quatre étapes. C'est une manière, je veux dire, de ne pas dissoudre la... On ne peut pas dissoudre la porie. La pluralité et l'unité. C'est le mystère du monde. La pluralité des convictions et l'unité du monde. On ne peut pas espérer que tout le monde deviendra chrétien quand même. C'est l'utopie. Et même Vatican II, c'est le secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est la conscience de chaque être humain. Et la Bible ne nous parle pas de cette manière-là, je dirais, tout le monde chrétien. Non, il faut réaliser un peu cela. Alors, où est l'universalité du christianisme? Voilà. Oui. Donc, pluralité indépassable et pourtant unité de la vérité. Alors, la vérité comme postulat, première étape. Je vous propose ici donc un modèle qui est le modèle, si vous voulez, je dirais, majoritaire dans nos sociétés. Ça ne veut pas dire que tout le monde vit cela. Mais je dirais, la vie de la société est bâtie pour une bonne partie, le monde politique aussi, sur l'argumentation. L'argumentation. Il faut argumenter. Dès que vous négociez dans un magasin un produit, quelque chose, vous argumentez sur un prix. Où les politiques argumentent. Sinon, c'est la violence. C'est le plus fort qui gagne. Donc, on argumente. Dans un parlement, on argumente. Des arguments pour et contre. Donc le modèle d'argument, et vous avez deux sortes d'arguments. Vous avez des arguments contraignants. Dans le monde scientifique, c'est largement comme ça. Et vous avez des arguments non contraignants qui nécessitent, et là viennent les deux termes, une pesée. Vous pesez le poids d'un argument. Vous voyez, vous estimez, par exemple, dans le cours d'assises, n'est-ce pas, les jurés, c'est pas des arguments contraignants. C'est-à-dire, vous avez des indices que quelqu'un a fait un meurtre, mais les indices ne sont pas suffisants, ce n'est que des indices. Et à un moment donné, on arrive au jugement et les jurés doivent peser les arguments qu'ils ont entendus pour et contre, et il y a cette magnifique terminologie dans le droit par conviction intime. La conviction intime. Vous voyez, elle intervient ici. Et je me suis fait une conviction intime en pesant les arguments pour et contre en conscience. Donc vous avez ces deux types d'arguments. Alors qu'est-ce que nous apprend ce modèle d'argumentation? Je dirais d'abord que la vérité est inexpugnable. Inexpugnable. Dès qu'on argumente en faveur de ceci ou de cela, on postule une possible vérité. À la cour d'assises, on postule une possible vérité. On ne la connaît peut-être pas, et on recommence 20 ans après un procès, mais on postule quand même que la vérité existe. Vous voyez, c'est tout à fait le postulat. Vous ne pouvez pas argumenter sans ce postulat-là. Donc, voyez, vous avez là, on ne peut pas oublier complètement la notion de vérité. On la postule, une possible vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut universaliser ce modèle d'argumentation? Ce modèle d'argumentation, on l'universalise. Ça veut dire quoi? Si personne, imaginons ceci, si personne n'est exclu de l'argumentation, personne, ce qui est la prétention de la société démocratique. Personne n'est exclu de l'argumentation. Pour voter, on pèse dans sa conscience. Voilà. Deuxièmement, il n'y a aucune violence qui n'est exercée sur les interlocuteurs de l'argumentation. Tous peuvent dire librement ce qu'ils pensent, ce que le pape a souhaité pour le synode. Alors, la vérité se manifestera. Elle se manifestera, je dirais, d'une manière relative, c'est-à-dire ici et maintenant, dans telle ou telle situation. Et voyez, on a là la célèbre règle de Constantinople que je vous ai citée, mais je l'ai formule là d'une manière philosophique à la page 85 de votre dossier, tout à fait en haut, voilà. Ce sont aussi les saints-pères qui, au long des temps, se sont réunis dans les quatre saints conciles, suivant les exemples anciens, et ont statué en commun sur les hérésies et les questions soulevées, tenant comme règle certaine, c'est ça le postulat, que lorsque les questions qui doivent être tranchées par les deux parties sont posées lors des discussions communes, La lumière de la vérité chasse les ténèbres du mensonge. Voilà le postulat. Le postulat caché dans le modèle d'argumentation. Voyez, c'est un postulat totalement utopique. C'est-à-dire utopique ce qui n'a pas lieu. Mais je veux dire qu'il faut présupposer que chaque fois on argumente, on présuppose ça. Et on peut l'universaliser, ici, si personne n'est exclu de l'argumentation et aucune violence n'est exercée, s'il y a vraiment la liberté d'expression, alors la vérité se manifestera. Jürgen Habermas a appelé ça la communication universelle et sans contrainte de l'humanité conduirait, il faut bien dire conduirait, vers la liberté, vers la vérité, vers la vérité. Voilà le postulat de la vérité. Si toute l'humanité se mettait à discuter de toutes les convictions et questions de fond, personne ne serait contraint. Voilà, postulat, voilà, la vérité se manifesterait. Ce serait l'absence de violence. Donc on pourrait dire vérité égale communication entre tous et l'absence de violence. Donc la communication universelle et sans contrainte de l'humanité conduirait à la vérité. C'est bien sûr une visée utopique, postulée parce que nécessaire et impossible. Nécessaire et impossible. Et voyez, vous sentez déjà dans cette manière de parler la tension indépassable entre Babylone d'un côté et la Pentecôte de l'autre côté. Voilà une manière de retraduire, sur le plan philosophique, la question de la vérité comme une question inexpugnable, c'est-à-dire on ne peut pas l'expulser parce que concrètement, dans nos sociétés, on ne cesse de faire appel à ce postulat. À ce postulat. Alors, apparaît ici une nouvelle question, deuxième étape. La vérité peut-elle être réduite au consensus? Parce que, évidemment, dans la première formulation que je viens de donner, la communication universelle et sans contrainte, il y a un risque, c'est-à-dire qu'on identifie la vérité finalement entre le consensus entre tous. Mais il y a le pseudo-consensus. Il y a du pseudo-consensus. Le politiquement et culturellement correct, et il y a des aveuglements collectifs existants. Par exemple, par rapport à la question écologique, c'est peut-être un peu moins maintenant, heureusement, mais quand même. On a vécu longtemps avec un aveuglement collectif, chrétien ou non, peu importe. Donc, voyez, l'utopie, il faut préciser ici, du consensus universel et sans contrainte, ne garantit rien d'autre. Alors là, il y a une limitation maintenant. Ne garantit rien d'autre que la possibilité de se situer au-delà du scepticisme et du dogmatisme. C'est ça le sens du postulat. Qu'est-ce que c'est le scepticisme? Le scepticisme, le pragmatisme est aussi un certain scepticisme de ce point de vue-là. Bon, le vrai, ça intéresse personne, ça n'existe pas. Voilà. Ça, c'est le scepticisme. Mais le dogmatisme, c'est, je sais ce que c'est le vrai. Vous voyez, je ne suis plus dans un postulat. Et donc, il faut se protéger d'une certaine manière et il faut protéger nos sociétés contre le scepticisme et le dogmatisme entre des fondamentalismes, etc., contre les deux, parce que si on n'a plus le postulat de la vérité, c'est-à-dire la recherche responsable de la vérité, la dénonciation de nos pseudo-consensus n'est plus possible. Et donc, le risque du totalitarisme est tout de suite à la porte, qu'il soit explicite ou qu'il soit sournois. Sournois. Voilà. Alors, troisième étape, on n'a pas tout à fait fini. Si quelqu'un s'engage dans cette recherche, je suppose maintenant qu'une bonne partie d'une société est consciente de ce postulat et s'engage donc, comme le désire le Concile Vatican II, dans la recherche responsable de la vérité. C'est à ce moment-là qu'on peut faire une expérience tout à fait spécifique. Quelle est cette expérience? Personne n'est obligé d'argumenter. Et ça, c'est de nouveau une expérience difficile, hein? Très difficile dans notre vie quotidienne. Voyez les limites du modèle d'argumentation. Déjà dans un couple, voilà, dans une famille, voilà. À un moment donné, voilà, on arrête d'argumenter. Voilà. L'un va dans l'immigration intérieure, et n'ouvre plus la bouche, se tait, fait la gueule, comme on dit, et l'autre impose sa volonté. Donc vous voyez, il y a quelque chose, je dirais, à la fois de juste dans le modèle d'argumentation, et qu'il faut absolument faire avancer et dire, mais précisément pour se rendre compte que personne n'est obligé d'argumenter. Et souvent les drames de l'existence humaine émergent à cet endroit-là. Personne n'est obligé d'argumenter. Beaucoup de nos contemporains vivent des pans entiers de leur existence sans argumentation, et donc sans recherche responsable de ce qui est vrai et sensé. Mais si j'argumente, je peux faire l'expérience de la porie inhérente à la question de la vérité. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui fait cette expérience-là. Je suppose un vrai commun à tous les êtres humains, en disant il y a humanité. Dès que je dis il y a humanité, je suppose un universel, un vrai, un genre humain. Je suis plus chez les Grecs à ce moment-là, qui distinguent entre les Athéniens qui sont des humains et les autres sont des barbares. Voyez. Donc, je postule une vérité une, voilà, commun à tous les êtres humains, et en même temps nous vivons dans une histoire marquée fondamentalement par une pluralité de convictions ultimes et donc aussi par la violence entre les convictions, les interruptions de conversation, d'argumentation, etc. Et donc, il s'agit de, à ce moment-là, ni renoncer à la pluralité des convictions, ni, donc au respect, ni renoncer à l'argumentation en faveur du vrai. Autrement dit, je viens de vous faire le commentaire de l'ensemble de la Bible, la question de la vérité dans la Bible. Il faut tenir ensemble Babylone, la multiplicité des langues et la Pentecôte, les deux en même temps, voilà. L'un orienté vers l'autre. C'est là, vous voyez, va intervenir maintenant la foi chrétienne dans cette postmodernité. La foi chrétienne prend sur soi cette fragilité de la forme du vrai. Vous voyez, ce qui se manifeste dans ce que je viens de dire, que le vrai est ce qui est le plus fragile. Et l'aporie nous montre ça. Et la foi chrétienne, le propre de la foi chrétienne, c'est prendre sur soi cette fragilité. Elle s'expose à cette fragilité. Qu'est-ce que la vérité, Pilate? Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est celui qui sera, quelques heures après, crucifié, qui dit ça. Voyez, le testis, le témoin, le martus, vous rappelez, j'en ai parlé au début de ça. Voilà. Donc, la foi chrétienne prend sur soi le mensonge, s'expose à cela, à la violence, à la jalousie, à toute exclusion et l'absence de tout intérêt pour le vrai, donc au Pilate du monde. Et je dirais, c'est l'argument de crédibilité par excellence, le premier et l'ultime, ce que j'appelle, et j'expliquerai ça dans le deuxième chapitre, l'argument de sainteté. L'argument de sainteté. Je conclue. Que peut-on attendre, donc, je reviens à ma question initiale, de la raison dans le domaine du sens de l'existence et de la foi? Donc, vous avez là cette thèse qui reprennent le tout. Premièrement, qu'elles garantissent la liberté humaine de chercher le sens de notre existence. C'est la première fonction de la raison. Donc, vous voyez, la raison ne se réduit pas uniquement à la raison technicienne, à ce qui est contraignant, mais le cœur de la raison, c'est son humanité, la capacité de l'être humain de peser, d'estimer ce qui a du poids. J'estime, dit l'apôtre Paul, que la gloire qui doit venir est sans proportion avec les souffrances de ce temps. Voilà. Un acte de peser. Qu'est-ce qui a du poids? Donc, la raison est une raison qui pèse. Et ce n'est pas uniquement la raison, voyez, la raison politique, c'est une raison qui pèse. Les choses qui estiment, l'estimation du meilleur ou du moins mauvais pour une société. Et évidemment, c'est une pesée sociale, politique, collective. Donc ça, c'est la première fonction. Elle garantit la liberté humaine de chercher le sens de notre existence individuelle et collective. Je peux attendre de la raison qu'elle conduise l'homme au sein d'une existence potentiellement ouverte au respect d'autrui et donc à postuler qu'il y a du sens. Vous voyez, ça c'est le côté conscient de la raison humaine. Deuxième élément, la raison est éthique, parce qu'elle est collective, éthique. Il y a du sens, et non pas mon sens, il y a du sens. Il n'y a pas uniquement l'absurde. Donc c'est la capacité de résister à ce qui est absurde en postulant qu'il y a du sens. Troisième élément. Je peux attendre de la raison qu'elle suscite en l'homme la capacité de chercher du sens jusque dans les limites du non-sens. C'est la raison. À l'endroit où nous pouvons résister au non-sens, le porter et le prendre éventuellement sur nous, en particulier quand il se manifeste comme violence et comme violence entre convictions, religion, proposition de sens. Mettons de la raison là-dedans, c'est-à-dire c'est la résistance. Il y a du sens même dans la non-violence à chercher et à remettre toujours debout. Quatrièmement, qu'elle soutienne l'homme à envisager jusqu'au bout l'idée d'humanité. Ah, ça c'est le plus beau de la raison. C'est le fleuron de la raison. Elle envisage l'idée d'humanité. C'est un postulat, voyez. Et comment postuler à Auschwitz qu'il y a de l'humanité ou à Rwanda, voilà, il y a de l'humanité. Et donc c'est la fonction postulante de la raison. Envisager jusqu'au bout l'idée de l'humanité ou de solidarité. Vous voyez, c'est la même chose. L'existence du sujet étant finalement dépourvue de sens si l'aventure de l'humanité tout entière n'a pas de sens. Vous voyez, c'est je dirais, le côté terrible de l'individualisme. Donner du sens à son existence, du reste, je m'en fiche. Alors du coup, mon existence n'a aucun sens. Voilà. Parce que l'humanité individuelle a un sens si l'aventure globale de l'humanité a un sens. Et vous voyez, la question écologique, c'est exactement ce qu'elle nous rappelle. C'est exactement cela qu'elle nous met à notre souvenir. Alors, étant donné la conception de la raison qui se dégage des points 1 à 4... nous ne pouvons pas abandonner la question de la vérité ayant le devoir d'argumenter au sein même de la foi, même si personne ne peut être contraint à argumenter. Ça, c'est le début. Évidemment, les points 1 et 2. Alors, il y a des arguments philosophiques ici à avancer en faveur de l'argumentation, du modèle. Premièrement, l'absence de la question de la vérité produit de la violence, bien sûr, rend impossible toute dénonciation des effets négatifs de la mondialisation. Si j'argumente, j'y cherche plus la vérité, je viens de le dire tout à l'heure. Et il y a un argument théologique à avancer. L'adhésion à la foi, l'acte de foi, est par sa nature même, de dignitatis humanae dis, un acte libre qui suppose une pesée. Une pesée qui relève de la raison. La foi chrétienne n'est pas simplement un nom pour dire un instinct de survie. La foi chrétienne n'est pas uniquement un autre nom pour dire « c'est ma tradition ». La foi chrétienne est un acte libre qui présuppose une pesée. Une pesée. La pesée paulinienne que j'ai citée tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. Voilà. J'estime que. Voilà. Logizomai. J'estime. Voilà. Donc, voilà la fonction de la raison. Alors, du coup, sixième thèse. L'enjeu, c'est de communiquer, le pape François l'a encore rappelé, communiquer avec autrui en vérité. Communiquer avec autrui en vérité. Les deux à la fois. Communiquer en vérité. Alors, seule une clarté intérieure, donc pesée, par rapport à la question de la vérité, rend possible une communication en vérité avec autrui. Sinon, j'essaie de le séduire, ou l'inverse, voilà. Je suis gentil avec lui. Voilà. Ben, ça suffit pas. Je prends donc l'initiative de postuler qu'il y a du sens, ou qu'en dernière instance, et c'est une utopie, la vérité est de l'ordre d'une communication universelle et sans contrainte. Ça, c'est la première condition. Seule l'idée que la vérité est de l'ordre de la communication, qu'elle implique donc le respect de la pluralité des convictions, est à la hauteur de la situation spirituelle de la postmodernité. Donc, tenir ensemble, ce qui fait toute la fragilité de la vérité, et qui est le cœur du postulat, le pluriel radical, insurmontable, et la communication, en vérité. Ces deux affirmations apparemment contradictoires, la vérité est une, la vérité est plurielle, c'est-à-dire elle est de l'ordre de la communication entre tous, indiquent la condition indéterminée et absolument fragile de l'humanité, ce que je disais à la fin du chapitre, c'est-à-dire la condition absolument fragile de l'humanité, renvoyé à sa propre liberté, et vous avez là cette magnifique formule de dignitatis humanae, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Voilà. Donc c'est là la réponse divine à la fragilité humaine. Cette situation, dernière thèse, ouvre à la proposition chrétienne la possibilité de s'avérer vraie, à condition cependant qu'elle s'inscrive dans la conception moderne et postmoderne de la vérité, de la raison et de la vérité. Donc ce sont les thèses 1 à 6, qui est le cadre, si vous voulez, spirituel. Et qu'elle les réinterprète à partir du donné biblique. Vous voyez ce que j'ai déjà fait avec Babylone et la Pentecôte. Ce qui est possible, Si l'on envisage la figure du Christ et celle des siens sous l'angle de la sainteté, et à savoir à partir de leur capacité à prendre sur soi, sur eux, les conditions mêmes de la vérité. C'est-à-dire les conditions, c'est les numéros 1 à 6. C'est-à-dire la raison estimante, postulante, en communication avec tous les éléments que je viens de dire. Voilà. Bon, je vais aller un peu plus vite que j'avais pensé. J'espère que vous m'avez quand même suivi sur ce point tout à fait décisif. Donc, vous voyez, avec les chapitres 2 et 3, on va mettre ça en musique, si je puis dire, très concrètement. Parce que si vous regardez, vous voyez à partir de la page 32, vient d'abord l'expérience de sainteté, l'argument de sainteté. Ensuite, à la page 35, la crédibilité du récit biblique, que j'ai déjà évoqué à l'instant, avec les deux extrêmes, si vous voulez, Babel et Jérusalem, Pentecôte. Et ensuite, dernier élément, page 39, l'ouverture de la raison. C'est là où on va revenir au tragique, au mal radical, donc à l'absurde, et l'espérance active, l'argument de raison. Bon, on va faire la pause. Donc, 10 minutes, comme d'habitude. Donc la question, c'est un peu comment procéder maintenant. Donc vous voyez, c'est un bref deuxième chapitre que je propose ici, qui est à la fois un rappel de ce qu'on a déjà fait un peu dans l'introduction, très rapidement. Donc la structure classique de l'argument de crédibilité, et ensuite, je veux dire, comment restructurer cela aujourd'hui, étant donné ce que je viens de proposer dans le premier chapitre. Donc d'abord, très rapidement, un rappel. La logique historique et argumentative sous-jacent à l'argument classique de crédibilité. Donc vous rappelez, il y a la première chose qu'on peut dire, il y a deux choses. Il y a un ordre historique. Et ensuite, à partir du XIXe siècle, s'impose un ordre spéculatif. Donc un ordre historique. Donc vous voyez les trois temps. D'abord le XVIe siècle, avec l'opposition au protestantisme, qui est l'autre dans la chrétienté latine. Et ça deviendra ce qu'on appelle la démonstration catholica. Donc la vérité est du côté catholique. Comment ça fonctionne ? Voyez, quand on dit ça aujourd'hui, n'est-ce pas, on fait presque une pièce de théâtre, n'est-ce pas. On essaie de rejouer quelque chose de l'histoire du passé. Vous voyez, notamment après le premier chapitre que je viens de vous proposer. Hein. Voilà. Donc la vérité du côté catholique romain, pourquoi il est impossible de faire abstraction d'une tradition interprétative, alors le luthéranisme s'appuie sur l'écriture seule. Donc B, le groupe Gliese, ce groupe interprétatif a besoin d'autorité apostolique. Ce sont les apôtres et Pierre, et donc la succession apostolique. Voilà, grosso modo, ça fonctionne comme ça. Première partie, la démonstratio catholica. Et ensuite, à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, à l'intérieur de la chrétienté latine, donc en Europe, c'est une nouvelle figure qui apparaît, un nouvel autre, c'est le déisme et le théisme. Et donc le problème n'est plus être seulement catholique ou protestant, mais la question est d'être chrétien. Donc la raison historique, alors maintenant ça vient de la raison historique, démontre que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, qui a crédibilisé sa mission par ses miracles et sa résurrection en accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, ça c'est le traité qu'on appelle à l'époque « Delegato Christo », n'est-ce pas, sur le Christ, l'envoyé du Père. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, il a accompli les prophéties, il a fait des miracles et il s'est ressuscité. Et par là, il a prouvé qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc, qui a révélé Dieu. Et au XIXe siècle, l'opposition devient encore plus radicale. Donc, l'athéisme, le panthéisme, le matérialisme. Et donc, troisième traité, la Demonstratio Religiosa. La droite raison, donc une raison non totalitaire, c'est positif, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu, j'ai dit, ce qu'on pourrait découvrir comme conception de la raison à Vatican I, démontre sa propre ouverture radicale à la transcendance. Dieu peut être connu, Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu par la raison droite, la raison naturelle. Alors, c'est la lente genèse de la théologie fondamentale comme apologétique. Et au milieu du XIXe siècle, ça bascule. Donc là, on est dans un ordre génétique, l'ordre de la découverte historique. Et ça devient donc une structure spéculative très fortement organisée et qui va se retrouver dans tous les manuels qui sont enseignés dans toutes les facultés de théologie catholique en Europe, quasiment jusqu'au Concile Vatican II, jusqu'à la veille du Concile. Alors, avec quatre étapes, donc la structure spéculative, et grosso modo, je dirais en 65, j'ai encore suivi ce cursus, mais d'une manière très, très, très aménagée, donc au lendemain du Concile. Première question, qu'est-ce que la raison? Donc on vient d'en parler de ça. Quel est son enracinement dans l'expérience humaine? Quelle est son ouverture à la transcendance? Quel est son rapport au négatif? Violence, mort, etc. Ça, c'est la première question. Les préambules, comme on disait. Qu'est-ce que la raison? Que peut-on attendre de la raison? Et donc, ça se fait dans un cadre aristotélicien, thomiste, pour le dire rapidement. Ensuite, deuxième question, vous voyez, c'est très très logique. Cette raison est-elle anhistorique ou historique? Anhistorique, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est uniquement logique, mathématique? Quel est son rapport à l'histoire, cette raison? Si elle est historique, où chercher alors le sens? Où chercher le sens? Y a-t-il des traces d'un sens absolu dans l'histoire? Des signes d'un sens révélé? Des signes d'un sens révélé? Je veux dire, que la raison peut s'approprier. Alors viennent les prophéties, vous voyez les trois termes de tout à l'heure, les miracles et la résurrection, et qui dépassent évidemment la trame même de la nature. Donc une raison ouverte à la transcendance, à Dieu, deuxièmement, en train de chercher les traces de Dieu, du surnaturel dans l'histoire. Alors, troisièmement, s'il y a un sens révélé en vérité, donc que le point 2 tente de prouver, où trouver ce sens révélé dont nous avons des traces? Dans la personne de celui qui accomplit les prophéties, qui fait des miracles et qui vainc la mort. Donc ça c'est la Demonstratio Christiana achevée. Donc on commence par la raison, donc là, la personne du Christ. Et maintenant, quatrièmement, qui nous communique ce sens révélé en vérité? Comment est-il arrivé jusqu'à nous? Par l'Église catholique, la seule vraie. Parce qu'elle s'est avérée dans l'histoire comme une sainte catholique et apostolique. Vous avez lu ça dans le troisième chapitre de Dei Filius. Elle est par elle-même un signe irréfragable de la vérité. Voilà, donc, premier acte de la pièce terminé. Le Concile Vatican II et d'autres mutations sont intervenues. Je vous ai montré ça déjà. C'était un peu une sorte de résumé. Voilà. Mais on peut pas, je veux dire, à la fois on est donc devant quelque chose, une pièce de théâtre, n'est-ce pas, quelque chose qui est à l'extérieur de nous aujourd'hui. Mais bon, certains défendent encore ça, évidemment, ça existe encore quand même. Mais en même temps, on peut pas nier, je veux dire, le caractère logique, très progressif de ce type de parcours. Ça c'est au cœur, je dirais, des séminaires du 19e et d'une bonne partie du 20e siècle et même des universités. Alors, critique, il y a évidemment certains éléments, on peut critiquer certains éléments, mais c'est sans grand intérêt. C'est-à-dire, c'est la totalité du système, n'est-ce pas, qui pose problème. Et sans doute, je dirais, au moins je vais nommer deux choses ici comme éléments critiques, sans revenir au quatrième chapitre de la partie introductive. C'est d'abord la circularité de l'argumentation qui pose problème. Où est le point de départ dans tout ça? Le point de départ est historiquement situé, qu'on risque d'oublier. Historiquement et culturellement situé. Donc situé culturellement en Europe, et à l'intérieur de l'Église catholique, qui, avant qu'elle commence à argumenter, sait qu'elle sait déjà qu'elle est la seule vraie. Vous voyez, c'est la circularité. Elle sait déjà qu'elle est la seule vraie. En dehors de l'Église catholique, point de salut. Vous voyez, ça c'est le point de départ de toute cette période-là. Elle sait qu'elle est la seule vraie. Donc vous voyez, on frôle ce que, dans une tradition philosophique, on appellerait le dogmatisme. On sait d'avance. Et donc, tout le système de l'argumentation, qui paraît très progressif, est fondé, si vous voulez, je dirais, sur ce point ultime, finalement. Ça, c'est la première difficulté. Où est l'altérité? Voilà. Où est vraiment l'altérité de l'autre? Alors, pour le Concile Vatican II, ça sera la première question, n'est-ce pas? Qui est l'autre? Et le deuxième problème, c'est le caractère démonstratif de cela qui laisse, je le disais déjà dans mon premier chapitre de cette partie, qui ne laisse plus aucune place à la liberté de la foi. La démonstration, la preuve. Alors, maintenant, deuxième temps de ce chapitre, vous voyez, on va relativement vite, parce qu'après, ça va se ralentir de nouveau quand on entre dans le détail, vers une restructuration de l'argument. Comment le restructurer aujourd'hui? Alors donc, il s'agit d'un itinéraire maintenant, c'est le titre du cours. Comme le troisième chapitre de la première partie, d'un itinéraire. Alors, il y a d'abord des présupposés, et ensuite viennent les étapes de l'itinéraire, les présupposés. Alors, le point de départ aujourd'hui de l'argument de crédibilité, c'est la vulnérabilité, et je reviens maintenant à ça. Originaire de l'être humain, et la question du sens, telle que je viens de l'expliciter aujourd'hui. Y a-t-il du sens à l'existence et quel sens? Voilà. Donc je fais ici les renvois nécessaires. Et le point de départ, c'est aussi, je veux dire, de comprendre la position paradoxale de cette question. C'est ça qui est nouveau d'une certaine manière. C'est-à-dire, personne ne peut la poser à ma place, cette question. Donc, elle est renvoyée à la liberté inaliénable de chaque conscience, à chacun de postuler, je reprends la formule de tout à l'heure, du chapitre précédent, à chacun de postuler dans ses actes sensés qu'il y a sens et qu'il y a un sens pour lui. Et j'avais déjà dit dans la partie d'introduction que cette subjectivisation radicale de la question du sens rend problématique la socialisation. Et ça, c'est, je dirais, davantage peut-être le problème des sociétés européennes, occidentales. Donc, la personnalisation, la subjectivation de la question du sens rend difficile la socialisation. Comment faire entrer, au fond, dans nos sociétés, la question du sens, il y a-t-il du sens, quel sens, dans un échange? Vous voyez, ce que dit Dignitatis Humanae, que j'ai cité tout à l'heure, le numéro 3, exige. Comment trouver le sens de manière responsable, c'est-à-dire à la manière de la personne humaine et qui est une réalité sociale en même temps. Le numéro 3 de Dignitatis Humanae que je vous ai lu. Donc c'est la difficulté. Et en plus, comment le faire entrer dans un argument, c'est-à-dire de poser le sens vrai, pas uniquement le sens, mais sous l'angle de la vérité, communication en vérité. La difficulté fondamentale est là, à l'heure actuelle. Alors vous avez des cafés de philosophie, maintenant vous avez un peu partout quand même dans la société, on sent, je dirais, que la société, au moins je parle de la société française et allemande, italienne, un peu espagnol aussi, c'est-à-dire ces sociétés qui sont qu'on est devenu aphasique et qu'on ne peut pas individualiser la question du sens uniquement. Et qu'il faut des plateformes. Hein. Alors le cinéma peut être une plateforme comme ça, le débat sur un tel film, d'échanger sur la question du sens. Alors ensuite, deuxième présupposé. Je m'attarderai un tout petit peu à cela, parce qu'on va le retrouver. Il faut distinguer ici différents niveaux de socialisation de la question du sens à partir du triple rapport que chaque être humain entretient avec soi-même, avec autrui et avec le monde. Triple rapport. À soi-même, à autrui et avec le monde. Et j'introduis ici une distinction qui me paraît très opérante aujourd'hui quand il s'agit de la question du sens, donc du point de départ de l'argument et de la vérité. C'est les trois notions authenticité, justesse et vérité. Donc le premier qui les a développés sous cette forme, c'est Jürgen Habermas dans la théorie de l'agir communicationnel, un très grand ouvrage d'inspiration, un peu pourrait-on dire kantienne, mais en même temps dans une société postmoderne. Il se pose la question de la viabilité de nos sociétés. On trouve des choses analogues chez Charles Taylor, la société post-séculière, etc. Alors, les trois termes. D'abord, qu'est-ce que c'est l'authenticité? Elle porte sur le premier rapport, qui est le rapport de l'être à soi, de l'homme à soi. Quand je communique avec quelqu'un, voilà, c'est comme une sorte de règle formelle, au sens conscient du terme. Quand je communique avec quelqu'un, je dois pouvoir supposer. On a quelque chose comme ça dans les exercices spirituels de Saint Ignace, le presupponendum. Je dois présupposer que l'autre dit ce qu'il pense et ce qu'il fait. Fait éventuellement et ce qu'il dit. C'est-à-dire que l'autre dit ce qu'il pense et fait éventuellement ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a un rapport authentique à soi-même. Donc que le sens que lui, il postule pour son existence a une connotation, voilà le terme technique, d'authenticité. Sinon, il est impossible de parler de mensonge. Si toute la communication se réduit à une stratégie il n'y a plus de communication. La société tombe. Quelque part, l'authenticité est un postulat, vous voyez, qui fait partie de ce que j'ai appelé globalement le postulat de la vérité. Le postulat du vrai, de la vérité, est d'abord le postulat de l'authenticité de mon partenaire, que je dois présupposer. Ça ne va pas dire que ça s'avère vrai dans la suite. Je vais peut-être lui dire, mais écoute, ce que tu racontes là, tu ne le penses pas vraiment. Et quand je regarde ton existence, tu ne le fais pas vraiment. Et voyez, la communication s'enclenche, au niveau de l'authenticité. Ça, c'est le premier niveau. Alors ensuite, la justesse. Je crois que c'est très intéressant de distinguer les trois niveaux. C'est le rapport à l'autre. C'est là où on parle de justesse. La vérité sous forme de justesse. Ce qui est dit et éventuellement fait, est adapté, ajusté, voilà le terme, à la situation d'autrui et celle d'une société donnée. On parle par exemple de la justesse de certaines normes. La justesse de certaines normes, ultimement c'est le respect qui apparaît ici. Voilà. Le sens postulé dans la communication, a alors une connotation de justesse. Il est ajusté à telle ou telle situation sociale ou normative. Voyez, dans le débat sur le mariage pour tous, on a souvent confondu authenticité, justesse et vérité. Quelles sont les normes ajustées à une communication saine au sein de la société française? C'est la première question à poser. Alors après, on peut poser aussi la question de la vérité. J'ai dit le troisième niveau maintenant. Mais il ne faut pas confondre les deux, vous voyez. La vérité, c'est le troisième rapport, le rapport au monde. Le concept de vérité implique un passage à la limite. Je vous ai expliqué le terme barrière ou frontière et limite. Vous vous rappelez de ça? Un passage à la limite, c'est-à-dire l'idée d'horizon qui est fondamentale. Vous voyez, dans l'idée de postulat, je postule la vérité, j'utilisais le terme utopie. J'aurais parlé aussi, c'est un horizon. Le propre de l'horizon, quand vous avancez à plusieurs, il s'échappe toujours. Il s'échappe toujours. Vous voyez, ça, c'est l'utopie. Et le monde est de l'ordre de l'horizon, l'univers. Le monde comme univers, l'horizon. Comme horizon ou totalité du réel. Vous voyez, là, quand vous dites le réel, ça vous échappe. Vous avez toujours une parcelle du réel. Vous voyez jamais le tout. Vous voyez, donc, ça vous échappe. Plus que vous avancez dans la connaissance, plus que ça vous échappe. Et même si vous avez une théorie du Big Bang, les scientifiques honnêtes vous disent que ça fait à peine 3% du réel que ça peut expliquer. Voyez, à peine, à peine. Donc ils inventent d'autres concepts, voyez, le trou noir ou d'autres concepts pour dire. Et donc, España a cette thèse fondamentale philosophique, c'est-à-dire le réel est voilé. Donc le réel est voilé. Donc c'est de l'ordre de l'horizon ou du postulat. Vous ne pouvez pas ne pas postuler le réel. Mais vous le rejoignez jamais. Donc le sens qui est proposé, donc quand vous parlez de vérité ou postulé, ne veut pas être jugé et reçu seulement comme étant authentique et juste, mais veut être jugé et reçu comme étant vrai. À savoir comme étant, et c'est là où vient la vieille notion de correspondance, en correspondance avec le réel en sa totalité. Le réel existe, mais ouais, il est toujours voilé. Alors, il s'agit maintenant d'appliquer cette distinction à l'argument de crédibilité, sur la base fondamentale du respect de l'interlocuteur, communication et vérité. Ce qui est à la fin, la conclusion de mon chapitre précédent. Alors viennent donc les quatre étapes maintenant et que je vais mettre dans le chapitre 3 en musique. D'abord, première étape, l'authenticité et la justesse de l'expérience humaine et spirituelle de la foi. Ça, c'est le point de départ. Les deux à la fois. L'authenticité et justesse de l'expérience humaine et spirituelle de la foi, ce que j'appellerai l'argument de sainteté que j'ai déjà évoqué. Quiconque peut en éprouver la solidité. La solidité. Estimer la solidité. C'est au moins ça que j'espère que l'autre va faire quand il me rencontre comme être humain et chrétien, qu'il soit chrétien ou non, quiconque, c'est-à-dire il perçoit l'authenticité et la justesse de mon expérience. Alors ensuite, les points 2 et 3, ensemble. Le sens se trouve déjà inscrit dans des textes. Alors là, ça c'est un présupposé extrêmement important qu'une bonne partie de la philosophie contemporaine fait, c'est-à-dire le sens n'est pas uniquement à inventer, à créer, mais il nous préexiste dans des textes. Les grandes bibliothèques de l'humanité, pour faire bref. Le sens se trouve déjà inscrit dans des textes. Nous vivons avec une pluralité de productions de sens. Vous rappelez, dans le premier chapitre de la première partie, en parlant de l'histoire et de la culture et de l'inculturation, j'ai déjà utilisé ce terme. La Bible est une production historique de sens. Une parmi d'autres. Le sens existe déjà sous une forme plurielle. Le texte biblique doit être abordé ici en sa totalité et selon une double perspective. D'abord du côté de l'authenticité et de la justesse. Voyez, je reviens au numéro 1 à partir du texte biblique. Ce texte peut être lu comme texte d'identification qui véhicule un type d'humanité. La Bible nous véhicule un type d'authenticité et de justesse parmi d'autres, un classique dans l'humanité. Première étape. Alors ensuite, seulement, un texte comme expression d'une tradition qui prétend de véhiculer la vérité. Ah, vous voyez, là c'est le seuil. C'est le seuil. Je passe de l'argument d'authenticité et de justesse à l'argument de vérité. Un texte comme expression d'une tradition qui véhicule la vérité. C'est le texte de la révélation. Inspiré. Alors, vient maintenant troisième élément, l'achoppement ultime. L'achoppement ultime, c'est la raison. Et son rapport à l'absurde, au tragique et au mal radical. Donc ça, c'est l'épreuve ultime de l'itinéraire, pour nous tous d'ailleurs. C'est à la fois individuel et collectif. Sommes-nous en droit de postuler un sens et accueillir le sens révélé face au non-sens? Face au non-sens. Troisième élément de l'argument. Et ensuite un dernier. L'achèvement de l'argument de crédibilité, le passage de l'écriture comme objet culturel à l'écriture comme livre de l'Église. Le sens révélé, vécu et transmis dans et par l'Église. Et dans quelle Église? Voilà, ça c'est donc le dernier argument. Alors, prenez si vous voulez maintenant le schéma, le deuxième, qui est dans la page 59. Ça vous permet de, je dirais d'une manière peut-être un peu abstraite, mais quand même, je dirais, de voir un peu l'unité de l'itinéraire que nous allons parcourir maintenant, jusqu'à la fin du cours. Donc vous avez dans ce schéma-là, qui est en bas, comme dans le schéma qui est en haut, celui de la première partie, à partir de l'Épître aux Romains, chapitre 10, un axe vertical et un axe horizontal. comme dans mon schéma synthétique du Concile Vatican II. Alors, l'axe vertical, on commence par là. Donc, c'est l'axe de la foi. Donc, l'expérience humaine et spirituelle de la foi, voyez le numéro 1 sur votre page 32, c'est là où va se situer l'argument de sainteté ou l'argument d'authenticité et de justesse. Donc, la foi, au cœur de la vulnérabilité humaine. Et ensuite viendra, si vous voulez, le passage à l'axe horizontal. Qu'est-ce que c'est l'axe horizontal? C'est l'histoire dans laquelle nous vivons. C'est l'histoire, la foi dans l'histoire et la société. L'histoire. Et donc, c'est la multiplicité des bibliothèques humaines où l'humanité, dans son aventure, a inscrit le sens, les monuments et les textes. Et donc, parmi ces monuments et ces textes, le texte biblique, considéré donc sous un double angle, à la fois, je dirais, sous l'angle narratif, on y trouve une authenticité, une justesse, et sous l'angle historique avec la question de la vérité. Voyez, le texte comme manifestation, comme signe, je reprends ici le vieux terme de signe, comme dans l'apologétique classique, trace, la trace d'un sens, voilà. Signe. Et à partir de cela, vous voyez, va se poser, face finalement, je dirais, au texte, c'est la question de la raison humaine, qui pèse, qui estime, comme je vous ai dit. J'estime, dit saint Paul, que les souffrances de ce temps sont sans proportion avec la gloire qui est en train de venir, qui doit venir. Donc la raison humaine face à la souffrance et à l'absurde confrontée au texte. Donc c'est le lien entre la foi et la raison qui sera explicité ici. Mais la raison est dès le départ déjà dans cette foi dont je parlerai. Donc vous avez là les trois arguments. Donc l'expérience de sainteté, donc l'argument de sainteté. Ensuite, la page 35, l'argument narratif et historique, et finalement, à la page 39, l'argument de raison. L'argument de raison. Voilà les trois arguments et leur lien sur un itinéraire. Et il reste la troisième partie du cours, c'est-à-dire la question de l'Église. L'Église qui transmet, qui discerne et qui transmet, qui est interprète. Voyez, à l'intérieur du schéma de la tradition, elle reçoit et elle rend possible l'expérience de foi, mais en transmettant et en interprétant. Donc, c'est la question du comment. Bien, j'espère que vous avez bien saisi comment on procède. Alors, maintenant, les étapes de l'itinéraire. Et on va commencer avec l'argument de sainteté. Donc l'expérience de sainteté, ou en termes modernes, authenticité et justesse normative comme argument. Alors, la sainteté, quelque chose de simple finalement, qu'est-ce que c'est au premier plan la sainteté? C'est la concordance, je l'ai déjà dit, entre pensée, parole et acte. Et au début de toute célébration eucharistique, nous commençons d'abord à confesser notre non-sainteté. Voilà. Donc, c'est pas les pensées en soi, c'est pas les actes en soi, c'est pas les dits ou les dires en soi, mais c'est leur non-lien, leur non-concordance qu'on appelle péché. Le cœur divisé, le cœur de Pierre, divisé. Donc le point de départ, c'est le récit évangélique rapatrié dans notre aujourd'hui et lu en son élément humain. Il s'agit d'être face à des interlocuteurs. Ce qui veut dire à partir de ce qui concerne quiconque. Donc vous voyez, je reviens ici à cette quiconque vous en demande raison, nous y sommes. Quiconque vous en demande logon. Première lettre de Pierre. Le passage à vivre dont il s'agit ici, je reviens à la fin de la première partie du cours, c'est au sein de notre vulnérabilité originaire, c'est le passage de la peur d'être au courage d'exister, pour rappeler de ces formules, le tilish, courage d'exister, ce que nous raconte au fond les récits de guérison, c'est ta foi qui t'a sauvé. Voilà la foi de quiconque dont il s'agit. Alors, cette expérience originaire, d'une simplicité ultime, vous voyez, commune à tout être humain, bien sûr toujours colorée selon les cultures, les milieux, etc. Cette expérience originaire d'accès, finalement, à cette foi originaire, au-delà d'un instinct de survie, suppose la relation. Peut-être d'abord la relation parentale, ses substituts, mais les problèmes, vous rappelez, on va y venir un peu, se reposent tout au long de notre existence. Cette magnifique image que j'ai rappelée, qu'on trouve chez Matthieu, Isaïe, l'homme comme la mèche qui fume encore, le roseau, voilà, qu'il ne faut pas briser. Donc cette fragilité radicale, voilà. Et tenue par un acte de foi, la vie, ça vaut la peine d'être vécue. Voilà, courage d'exister. Cette expérience suppose la relation, voire une certaine qualité de relation, avec donc la question qui émerge ici, qui peut engendrer ce courage d'être? Dans les récits, c'est le Christ qui fait ça, c'est le passeur. Voilà. Qui? Quel passeur? Qui fait passer sur l'autre rive? Voilà. Cette initiation à la vie humaine. C'est là, si vous voulez, je distinguerai deux types de langage. D'abord, je dirais le présupposé néo-testamentaire, que c'est la santé qui est contagieuse, j'avais déjà dit ça, et pas d'abord la maladie. Donc la santé contagieuse, la santé, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est au fond, je dirais, les deux pieds par terre, vous voyez. Donc cette courage d'exister engendre le courage d'exister d'autrui. La vie engendre la vie. Et apparaît ici, précisément à cet endroit-là, la sainteté. Vous voyez, ça c'est maintenant le pas de plus. La sainteté, l'autre langage, qui n'est pas à confondre, évidemment, avec la santé. Mais il y a un lien. On voit bien ça dans le Christ, il y a un lien intime ici, entre les deux. Et il y a un passage. Donc, un passage où on peut dire, le formuler, c'est une manière d'être présent qui est la sainteté. Une manière d'être présent. Donc, vous voyez là, vous avez encore une formulation. Le royaume s'est approché. Le Christ s'approche, le chrétien s'approche de quelqu'un. Qui est mon prochain? Voilà. Qui est mon proche? S'approcher est le terme de parousia en grec qui veut dire présence et qui est la terminologie de Paul, la présence de Paul. Présence, et vous entendez déjà derrière le terme présent, donc don, le plus grand don, c'est la présence. Le plus grand présent, c'est la présence. Quelle présence? D'abord, si vous voulez, je dirais, intervient ici, les trois éléments qu'on a dit. D'abord, le rapport à soi. le rapport à soi, donc la concordance avec soi-même. C'est ça qu'on découvre dans la figure du Christ. Il a toujours pensé, dit ce qu'il a pensé et fait ce qu'il a dit. Concordance. Ou on pourrait parler aussi en termes de simplicité. Une simplicité d'enfant, voilà. Simplicité. Non pas divisé, mais simple, un cœur simple. Ou, troisième élément, je dis, là c'est le magnifique langage de Paul, en lui n'était que oui. Oui, oui, non, non. Voilà. En lui n'était que oui. Il est le oui. Voilà. Vous voyez, avant d'avoir un langage compliqué, la sainteté des vérités, des vertus héroïques, etc., vous voyez, c'est très élémentaire. Très élémentaire. Donc, une santé présence, concordance avec soi-même. Et alors maintenant vient le deuxième élément de la sainteté, c'est la règle d'or. Alors, vous savez que la règle d'or existe dans toutes les cultures humaines, mais toujours sous forme de règle de précaution. Ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'autrui te fasse. Donc, pour qu'autrui ne te fasse pas telle ou telle grâce, comme on dit en bon français, il ne faut pas lui faire une grâce. Ou pour nos amis égyptiens, quand on est dans le Nil, il ne faut pas taquiner le crocodile. C'est un dicton que j'ai entendu, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la règle d'or qui existe, une règle de précaution. On prend ses précautions. Alors le propre du Nouveau Testament, c'est le seul texte qui nous livre la règle d'or de manière positive. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Alors vous voyez, là, il y a un renversement total sur le plan de la justesse. Parce que vous voyez, il ne s'agit plus de ne plus faire ceci ou cela, mais de faire positivement. Positivement. Ce que précisément suppose des entrailles. Des entrailles. Un cœur de chair. Le bon samaritain, vous voyez. Donc il ne s'est pas posé la question qui est mon prochain, mais de qui me vais-je rendre proche. Vous voyez cette inversion qui est impliquée dans la règle d'or. Qui est impliquée dans la règle d'or. C'est-à-dire, on peut la traduire de la manière suivante. La règle d'or suppose la capacité de se mettre à la place d'autrui sans jamais quitter sa propre place. On ne peut pas quitter sa propre place, l'insubstituabilité. De se mettre à la place d'autrui sans jamais quitter sa propre place, voilà la règle d'or, et qu'on réclame d'ailleurs quotidiennement. Mais mettez-vous un peu à ma place. Vous voyez, on demande ça à autrui. Si j'étais à ta place, je ferais ceci ou cela. Alors ça, c'est plus moralisant, vous voyez. Donc ça, c'est la capacité de la règle d'or, avec sympathie et compassion, les deux termes. Voilà le deuxième élément de la présence du Saint de Dieu. Donc sa justesse, c'est toujours ajusté à telle ou telle situation. Deuxième élément. Et finalement, ce qui nous conduit le plus loin dans la sainteté, un nouveau rapport à la mort. Troisième élément de la sainteté, un nouveau rapport à la mort. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand j'applique la règle d'or, disons dans une situation d'hospitalité, une autre manière c'est de traduire la règle d'or, c'est je me mets en situation d'hospitalité avec autrui. Donc la sainteté est toujours hospitalière de ce point de vue-là. Mais je ne sais pas qui est l'autre, ça peut être un ami ou un ennemi. Mettre en réalité, accomplir la règle d'or pour un ami, voyez bien, n'est-ce pas, le chapitre 5 du serment sur la montagne. Qu'est-ce que vous faites de mieux que les païens? Voilà, vous aimez vos amis. Mais le problème, c'est d'appliquer la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, c'est-à-dire face à l'ennemi. Si tu vas à l'autel pour ton offrande et tu découvres, non pas que toi tu as quelque chose contre autrui, mais que autrui a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et réconcilie-toi avec autrui. Voilà la règle d'or. Vous voyez cette inversion. Donc ça devient problématique quand il s'agit d'un ennemi. C'est-à-dire quand la violence s'inscrit effectivement dans l'histoire humaine. Et vous voyez, à ce moment-là, la sainteté implique quelque chose de tout à fait radical que Jésus seul a vécu. C'est-à-dire, il a donné manger à Judas, à celui qu'il a livré. Donc ça suppose un rapport libre à la mort. Donc une présence, ou comme on dit dans l'Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 12, les saints n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Ou Saint Jean, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Donc vous avez là le troisième élément de cette présence, voyez, où on dépasse la santé, et c'est une présence de sainteté. Et apparaît ici, si vous voulez, une deux mesures, quelque chose de démesuré, et on retrouve de nouveau ici le vocabulaire. Vous voyez, vous ne pouvez pas légiférer sur la sainteté. La justesse, finalement, on peut, en dernière instance, on ne peut pas légiférer ce qui est juste quand je tombe sur quelqu'un qui est tombé parmi les brigands. La justesse, quelle est la réaction de justesse ici? Celle du prêtre, celle du lévite ou celle du samaritain? Vous voyez, à la place de la loi se met la parabole. On raconte une situation. Comme dans le chapitre 5 de Matthieu, on raconte, vous voyez, quand vous allez à l'autel avec l'offrande, quand, voilà. Alors, donc il y a une manière de parler qui introduit ici une mesure. C'est la mesure avec laquelle vous mesurez que vous serez mesuré. Et de toute façon, cette mesure, c'est toujours le tout. C'est toujours le tout, non pas le tout imaginaire, mais le tout ici et maintenant. Donc une démesure, et qui dans le moment même s'avère à la mesure d'un tel ou d'un tel. Il s'est avéré à la mesure du Samaritain de s'arrêter et de faire quelque chose qui est démesuré, c'est-à-dire de prendre ce pauvre type sur son dos ou sur sa monture, de l'emmener à l'auberge, de le soigner et de le faire soigner ensuite avec son argent. Voilà. C'est démesuré. Mais ça s'est avéré à la mesure. Et vous voyez, la santé, la sainteté, c'est ça. Subitement, c'est une expérience. Quelque chose de démesuré s'avère à la mesure d'un tel et d'un tel. Une grâce multiforme. C'est pas ce qu'on peut faire, mais on se découvre qu'on l'a fait. Que votre main gauche ignore ce que fait la main droite. Alors, tout homme est concerné ici. Et du coup, l'admiration de Jésus. Vous voyez, il admire d'abord. Et la première chose que suscite la sainteté, c'est l'admiration. Devant la sainteté anonyme et non anonyme, en deçà, au-delà de toutes les frontières. Alors très rapidement, pendant quelques minutes pour terminer, je reprendrai ça la prochaine fois pour que vous voyez un peu l'enjeu. Premièrement, la sainteté correspond à ce qui a été désigné plus haut comme authenticité et justesse. L'authenticité, ce avec quoi le discours, mon discours, ne doit pas entrer en contradiction. C'est ça l'authenticité. Cette authenticité est vérifiable, entre guillemets, en son propre ordre. Elle véhicule une sorte de d'évidence, c'est ça le point important, une sorte d'évidence interne au sein même d'une relation où l'identité de quelqu'un se présente comme recevable par autrui. Ça, c'est la première chose. L'identité d'un être humain, qu'il est chrétien ou non. Vous voyez, les chrétiens n'ont pas pour eux la réserve de la sainteté. Elle est anonymement répandue. D'où l'admiration du centurion, de Jésus devant le centurion. Jamais en Israël j'ai trouvé une telle foi. Donc vous voyez, c'est vérifiable entre guillemets. Il y a une sorte de d'évidence. Mère Teresa, vous voyez bien, n'est-ce pas? C'est pas une possession des chrétiens. Qu'elle soit canonisée ou non, elle a emporté la conviction du monde entier. Donc un type d'humanité. Authenticité. Mais au sein de la tradition juive et chrétienne, la sainteté élève aussi une prétention normative. Justesse. Il est parfaitement possible d'avancer des raisons valables en faveur de la validité universelle de la règle d'or. Je disais, elle existe dans toutes les cultures, comme règle du respect. Son accomplissement démesuré cependant, qui consiste à se mettre à la place d'autrui sans quitter jamais sa propre place, au point de se laisser blesser par autrui, l'amour de l'ennemi, n'est nullement exigible au nom d'une argumentation rationnelle. La sainteté, vous ne pouvez pas l'exiger. Elle est donnée. Seule mon engagement propre peut susciter par surcroît, et toujours sous forme de surprise, celui d'autrui, et rendre ainsi possible la justesse de la proposition de la sainteté. Ça, c'est, entre guillemets, la stratégie de Jésus. Il n'a jamais exigé la sainteté, mais il l'a vécue, proposée, en espérant qu'elle surgisse en face de lui. La sainteté effectivement vécue est le premier et le dernier argument. Le premier et le dernier. Donc, d'une certaine manière, le cours peut presque se finir, terminer avec ça. Voilà. En faveur de la tradition chrétienne. Mais attention, cet argument suppose le décentrement de la tradition chrétienne. C'est tout à fait décisif. La tradition chrétienne n'a pas le monopole de la sainteté. L'Apocalypse est nette là-dessus. La foule anonyme des saints. Le décentrement configuré dans les récits évangéliques et dans l'Apocalypse. L'admiration de Jésus devant la foi d'autrui. Voyez, ce point est essentiel. Mais elle a un monopole, la tradition biblique, juive et chrétienne, qui consiste en quoi ? En raison du Christ de désigner la sainteté, de la désigner et de l'admirer quand elle surgit dans l'histoire de l'humanité. Donc on pourrait dire la tradition biblique, au point où on en est, elle est une tradition, c'est la spécificité, qui admire l'émergence de la sainteté dans le monde, chez les êtres humains. Parce que elle se réfère au sein de Dieu, nous allons y revenir, qu'est le Christ. Mais non pas, si vous voulez, pour s'approprier cette sainteté, mais pouvoir la désigner. Ça, c'est l'argument de sainteté. Le premier argument en faveur, vous voyez, je postule la vérité, en faveur de la tradition chrétienne. Bien, on va s'arrêter là. Évidemment, après, il faut inscrire ça dans le temps. Et la question décisive à la page suivante, c'est évidemment le problème de la mort. Vous voyez le troisième élément de la sainteté, la question de la mort face à l'ennemi, et donc la question de la résurrection. Bonne semaine et à lundi prochain. Oui, bien sûr, mardi prochain.